Démarrons de suite la dernière rencontre de ce banquet 2014. Il revient à Yannis Kourtzakis l'honneur de clore ce banquet, tout simplement parce que c'est un ami, un familier de la grâce de la maison du banquet. Voilà donc avec Jean-Yves Masson, fidèle également à la grâce au banquet.
Double exil. Et l'autre, parle et vite, où est l'autre? Un nouveau coup sur la pomme d'Adam, frappé du revers de la main, lui coupe le souffle. Ces types-là ne plaisantent pas. S'ils ne les percent pas qu'il dit la vérité, ils vont le passer à tabac, puis ils l'emmèneront au poste, comme ils l'ont fait avec Vassilis l'autre jour quand ils l'ont pris pour un Algérien, alors qu'il regardait passer une manifestation avant de le retenir toute nuit sur un terrain de football. Qui sait? On va peut-être l'expulser de France. Il faut qu'il fasse quelque chose avant que l'affaire ne se gâte. Mais que va-t-il se passer si sa mère se réveille? Si tout l'immeuble est alerté? Il ne peut que leur répéter. Je vous l'ai déjà dit, c'est ma petite amie. On n'a rien fait de mal, juste une promenade. Et elle est rentrée chez elle. Il reçoit un nouveau coup. En escaladant l'échafaudage, elle est bien bonne. Arrête de te foutre de nous et dis-nous tout de suite qui est l'autre, si tu ne veux pas avoir de gros ennuis. Quelle histoire. En pleine nuit. Ils venaient juste de se quitter. Gisèle était remontée par l'échafaudage, dressée contre l'immeuble. On le ravale depuis un mois, comme la moitié de Paris. Tout comme elle était descendue 3 heures plus tôt à cause de sa mère qui ne la laissait pas sortir le soir. Il y avait si longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Ils avaient marché dans la ville, dans la nuit, puis ils étaient revenus tranquillement. Ils s'étaient embrassés sous la porte d'entrée. Elle était ensuite remontée en un clin d'œil jusqu'au troisième. Elle lui avait fait un signe de la main au moment où elle rentrait chez elle par la fenêtre entrouverte et il était reparti vers le boulevard. Mais avant même qu'il ait eu le temps de tourner au coin de la rue, 3 hommes avaient surgi des ténèbres, pistolets au poing. Il les avait entendus armés et avait d'abord cru à une plaisanterie. Pourtant, une voix lui avait ordonné sur le champ « Les mains en l'air !» Il a pensé qu'il était tombé sur des voleurs, mais sans lui laisser le temps de décider ce qu'il allait faire, ils avaient crié « Police !» L'avait fouillé, l'avait saisi par la taille, lui avait passé des menottes, l'avait poussé dans le fourgon dissimulé au coin de la rue, et s'était mis à l'interroger. Ils l'ont pris pour un cambrioleur, ou plutôt pour un complice de l'autre, celui qu'ils ont vu escalader l'échafaudage sans se rendre compte qu'il s'agissait d'une fille. Il est vrai qu'elle était en pantalon. L'aubaine était trop bonne pour eux. Mais que faire maintenant? Ils s'efforcent de leur expliquer la situation. Mais puisque je vous ai dit que c'est ma copine, elle est descendue et remontée par l'échafaudage. Sa mère ne l'autorise pas à sortir. Si vous voulez, je peux vous en donner la preuve. Il le regarde d'un air soupçonneux. Oui, je vais vous le prouver tout de suite. Vous n'avez qu'à me laisser descendre du fourgon et vous amener là-bas. Mais il ne faut pas faire de bruit, je vous en prie. Sinon ma mère va se réveiller et j'aurai encore des ennuis. Il les entend chuchoter, les sent hésitants. Une minute plus tard, les voilà tous sous sa fenêtre. Il siffle tout doucement les premières notes de la 5e symphonie. Maintenant que la rue est déserte, elle l'entendra aussitôt, si du moins elle ne s'est pas endormie. Mon Dieu, faites qu'elle ne se soit pas endormie. Elle est éveillée. La lumière s'allume. La fenêtre s'ouvre. Elle apparaît. Il est sauvé. Les policiers aperçoivent une jeune fille en chemise de nuit. Ils l'interrogent depuis le trottoir. « C'est bien vous qui avez escaladé l'échafaudage, il y a un quart d'heure ?»« Oui, oui, c'était moi. Ne vous faites pas de soucis, il n'y a rien de suspect à la maison. » Les policiers éclatent de rire. « Mais on croirait Roméo et Juliette. » Puis ils se tournent vers lui, lui ôtent les menottes et lui disent sur un ton de remontrance qui se veut paternel « Et en plus de ça, tu es étranger. Prends garde, mon petit gars. » Si tu ne te tiens pas à carreau, tu vas avoir des ennuis. » Il rit, lui aussi, de sa mésaventure. Mais pendant qu'il regagne sa chambre dans la nuit, il en a gros sur le cœur. « Et en plus de ça, tu es étranger. » Pourquoi ces paroles lui font-elles si mal ? Mais bien sûr, ce sont exactement les paroles que lui avaient adressées les deux gendarmes cette terrible nuit de janvier à Aulnoy, quand on les avait fait descendre du train à la frontière franco-belge Vassilis et lui, parce que dans leur précipitation, ils avaient oublié leur passeport. Quand on les avait jetés à la rue dans cette nuit glaciale, parce que la gare fermait, pendant que Harris agonisait à Bruxelles. Ils n'ont pas tort, au fond. Quoi qu'il fasse, ici, il sera toujours un étranger. Comment a-t-il pu l'oublier pendant tout ce temps ? L'aube le trouve rempli de tristesse dans sa petite chambre. Le visage collé contre la vitre, l'esprit ailleurs, il contemple les volets clos des maisons d'en face, la rue vide qui reçoit les premières lueurs du jour. Étrange pays. D'un côté, la France qu'il a tant aimée et qui lui a tant appris, la patrie de l'esprit et des droits de l'homme qui parle au nom de l'humanité, la France démocratique, humaniste, universelle, ouverte à tous ceux qui envient ses lumières et qui cherchent un asile sur ces terres, qui proclament que tous les hommes naissent libres et égaux, le berceau. Comment M. Flour disait-il avant-hier dans son cours ? Ah oui, le berceau de l'universalisme abstrait. Abstrait parce qu'il s'adresse à tous en général, sans distinction d'origine, de langue, de classe, de sexe ou de race. D'un autre côté, cette France qu'il apprend à connaître jour après jour dans sa chair, en vivant dans cette ville, et qui semble faire un pied de nez à la première. Les voisins qui ne daignent pas vous adresser un bonjour, ces gens qui referment précipitamment la porte derrière eux quand ils vous entendent monter l'escalier, ou qui vous regardent avec méfiance quand vous, l'étranger, vous les arrêtez dans la rue pour leur demander un renseignement. Cette indifférence glaçante qui hante la grande cité que l'on ressent lorsqu'on marche seul un dimanche matin sur les avenues désertes, un monde insensible, pétrifié, presque mort, même s'il est peuplé de millions d'âmes, comme le rappellent à tout moment les volets qui s'ouvrent, le fumet des repas qui s'exhalent dans l'atmosphère, les faces blafardes des passants qui s'enfoncent dans l'entrée d'un immeuble. Comment un cri humain pourrait-il s'y faire entendre ? S'il sortait soudain d'une bouche, un mur de silence se refermerait aussitôt autour de lui et l'étoufferait à tout jamais. Oui, ce qui est le plus lourd à porter, c'est ce monde totalement indifférent à son égard, qui ne lui permet pas de pénétrer dans son intimité et le tient perpétuellement à distance, qui l'enferme au dehors.
Je vais vous lire les dernières lignes en grec, les dernières lignes de ce passage. Juste à partir du moment où cette indifférence glaçante. Αυτή η παγερή αδιαφορία των ανθρώπων που έχει στοιχειώσει στο σώμα της μεγάλης πολιτείας. Το νιώθεις σαν περπατάς μονάχος μια Κυριακή πρωί στις έρημες λεωφόρους της. Ένας κόσμος ανέσθητος, απολιθωμένος, θα έλεγες νεκρός και ας κατοικείται από εκατομμύρια ψυχές όπως σου το θυμίζουν κάθε τόσο τα παράθυρα που ανοίγουν, οι μυρωδιές των φαγητών που γλιστράνε στον αέρα, οι αχνές φιγούρες των περαστικών που χάνονται σε κάποιο σπίτι. Πώς να ακουστεί, πώς να αντυχήσει εδώ μια ανθρώπινη κραυγή. Αν έβγαινε άξαφνα από ένα στόμα, το τείχος της σιωπής θα έκλεινε αμέσως γύρω της και θα την έπνιγε για πάντα.
Alors c'est un extrait donc du dernier livre traduit chez Verdier, Double Exil, traduit par René Boucher, qui est le deuxième tome d'une trilogie, oui. dont Verdier a déjà publié il y a 2 ans le premier volume, 3 ans. 3 ans, pardon. Et oui, il faut le temps au traducteur de travailler. 2011. Le 10 colonnes en français, parce qu'en grec, ça s'appelle comme un roman.
Comme un roman.
Et que Daniel Pennac a pris le titre déjà. Donc nous ne pouvions pas l'appeler comme un roman. Alors le 10 colonnes, qui est un livre écrit à la mémoire surtout du frère, du narrateur. Parce que on peut dire en trois mots, même s'il a déjà été question de ce livre à la grâce, que le 10 colonnes, c'est une figure du théâtre de Karagiosis, dont nous voyons quelques figures dans le...
C'est
une figure uniquement du carnaval.
C'est du carnaval, un théâtre carnavalesque.
Carnaval, mais pas dans le théâtre.
Non,
d'accord.
C'est au pont, en Asie mineure, mm-hmm. une communauté grecque qui existait depuis des milliers des millénaires là-bas. Mm. Et alors, il y a une figure qui porte d'un jeune garçon qui porte sur son dos en permanence son frère mort.
Le cadavre du
alors,
frère.
Je m'en suis... Cette figure m'avait obsédé dans mes études, parce que j'ai fait des études, des essais, études, sur les cultures populaires, dont une sur le carnaval, en liaison avec le théâtre. Non,
c'était le début de ton travail d'essayiste.
Oui. Mm. Et alors, cette figure m'avait obsédé.
Cette figure s'impose dans le livre.
Donc, le début du 10 colonnes, c'est il y a une illumination soudaine. Je dis, mais pourquoi me suis-je occupé tellement de cette figure? C'est parce que c'est moi-même qui étais le 10 colonnes.
Avec le cadavre, parce que c'était un livre sur la mort.
Je portais mon frère mort, qui s'est suicidé à 26 ans. Moi, j'avais 18 à l'époque, j'étais à Paris. Voilà. Donc, le nom a été évoqué au moment...
Voilà, pour expliquer que dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il y a question de Harris, c'est le frère qui vient de se suicider et qui agonise en Belgique. Et la frontière ne peut pas être franchie à cause des papiers. À l'époque, il y avait une vraie frontière entre les pays d'Europe.
Je ne sais pas si aujourd'hui on n'a pas de passeport,
non,
c'est beaucoup mieux.
En tout cas, je pense qu'il vaut mieux avoir sa carte d'identité sur soi quand même. Mais enfin, effectivement, il n'y a pas de contrôle, à la frontière entre Paris et Bruxelles. Ni d'ailleurs après. Double Exil prolonge le premier... Alors, c'est un roman, malgré tout, le 10 colonnes. Je dis malgré tout parce que c'est un livre à la première personne et qu'il y a quand même une forte dimension autobiographique.
Tout à fait. C'est mon histoire. Tout à fait, c'est moi.
Et pourtant, il y a le mot roman, et dans le titre grec, comme un roman, signifie qu'il y a un travail d'élaboration qui va dans le sens du romanesque.
Exactement.
Je rappelle que roman en grec se dit mythistoria.
Mythistorima,
pardon.
C'est-à-dire deux composantes,
l'histoire et le mythe.
Et historia.
Voilà.
Mythe et histoire.
Et donc,
c'est un mot moderne. C'est pas un mot ancien grec.
Oui, parce que le mot roman n'existait pas.
Il est composé à partir du grec. Mm-hmm. Il y avait mythistoria. C'est Coréis, un érudit de la fin du 18e, début du 19e siècle, qui a créé le mot. Mais qui est un nom grec, évidemment.
Parce qu'on aurait pu,
et qui est un mot très évocateur. La première rencontre qu'on avait
Mais justement, le 10 colonnes, justement, c'est aussi une figure mythique. Ça peut devenir une figure mythique. Est-ce qu'il s'agit... Quel est le rôle du mythe, justement, dans le roman, dans un roman comme celui-ci?
Dans 10 colonnes, il y a vraiment un lien très étroit entre le mythe et l'histoire.
Justement.
Parce que il y a des éléments mythiques, ce que le 10 colonnes, il y a toute cette histoire du Nostos, c'est-à-dire le retour, il y a l'évocation de l'Odyssée, il y a beaucoup de choses mythiques. Et d'autre part, il y a l'histoire grecque du XXe siècle, parce que ça remonte à l'histoire du père. Il était très âgé, âgé.
Votre père,
je
oui.
suis né, il était né en... 19e,
un magistrat,
19e
un magistrat,
un magistrat, mais
important,
sous l'occupation ottomane en Crète.
Mm-hmm. Et donc c'est aussi un tombeau du père, pas seulement du frère, ce livre.
Parce que le père était très important, la figure du père était très importante pour le destin des deux fils.
Et moi, une chose qui m'a beaucoup frappé en lisant ce livre, là, la première fois que je l'ai lu en italien d'abord, avant qu'il soit traduit en français, c'est la dimension justement historique. Alors, ce qu'a fait Verdier avec le traducteur, avec René Boucher, c'est qu'au lieu de mettre de multiples notes en bas de page, nous avons ajouté au livre une chronologie de la Grèce moderne, et en fait, ce qui est bien révélateur, c'est qu'on est obligé, pour lire le livre, au fond, enfin, ce qui aurait tenu lieu de notes aurait correspondu à peu près à toutes les dates importantes de l'histoire de la Grèce moderne, ce qui veut dire qu'à travers le destin d'un individu ou d'une famille, de deux frères et de leur famille, c'est aussi toute la Grèce moderne qui vient se refléter, voilà, dans ce livre.
Exactement. Et c'est pour ça que j'appelle roman ce livre, parce que moi, je ne tenais pas du tout à faire une autobiographie. Non seulement je ne tenais pas, mais l'idée me rebutait totalement. Et c'est pour ça que j'ai tardé beaucoup à écrire ce livre, parce que je ne voulais pas écrire une autobiographie, je voulais écrire une œuvre littéraire. Après avoir écrit des essais qui étaient plutôt... j'étais anthropologue ou théâtrologue autodidacte, parce que je suis juriste de formation. Mais enfin, c'était des essais qui étaient un peu académiques, quand même, avec des notes, un appareil. Ça aurait pu être une thèse de doctorat, mais je ne l'ai pas fait, parce que, bon, je ne voulais pas. Et ensuite, il y avait un désir ardent qui m'habitait depuis mon enfance, je dirais, comme Thanasis Kasiopoulos. Et je suis très content d'enchaîner notre rencontre après celle de Thanasis Kasiopoulos, parce que je sens une grande affinité spirituelle.
Ça s'entendait aussi dans notre dialogue l'autre jour.
Hein. Oui, tout à fait. Alors justement, ce qui m'intéressait, c'était ma vie privée était complètement inintéressante. Au contraire, j'étais un peu heurté. Je ne voulais pas, parce que je résistais à cette idée. On s'expose, comme disait tout à l'heure Baptiste. On s'expose beaucoup. Mais j'ai compris très vite, en commençant à écrire, que vraiment, ça dépassait mon histoire personnelle. C'était l'histoire de la Grèce, et c'était une histoire humaine, une histoire grecque et une histoire humaine, tout simplement. Et ça se voit dans le deuxième tome, où vraiment il y a, comment dire, comme des cercles concentriques. Il y a le jeu au départ, mais j'ai l'impression que, ou plutôt la conviction, que lorsqu'on va au fond de soi-même, on touche les autres. Il faut dire d'ailleurs que le second livre en grec s'appelle « Nous les autres ».
Nous les
autres. L'altérité qui habite notre identité. Nous sommes les autres, les autres sont nous. Et il y a le jeu, l'autre aussi.
Alors, Double Exil, c'est un livre à la troisième personne.
C'est très réussi. Au contraire, au début, j'ai résisté un peu à ce titre, mais je vois que c'est très réussi parce que je voulais un peu sortir un peu des livres.
Mais on commence par.
Mais
on commence par les livres.
Avec Dominique Larocque, avec toi. Excuse-moi, je te tutoie.
Moi aussi, je te tutoie.
On parle grec. Je parle grec en français.
Très bien. On commence par les livres et après. Oui.
C'est important ce tutoiement pour moi.
D'accord.
J'expliquerai pourquoi.
Alors, allons-y. Mon rôle, c'est de poser des questions, juste, c'est de donner la parole. Mais je pense que c'est intéressant quand même de dire que dans ce deuxième livre, on n'est plus à la première personne du singulier, on est à la troisième personne, c'est-à-dire qu'on prend une distance. Le je, qui était un je dans le premier livre, devient un il, donc un personnage, se prendre soi-même comme un autre, comme dit Paul Ricoeur.
Exactement. Et la dernière phrase du livre apparaît le jeu. Finalement.
Allons-y. Lisons la toute dernière phrase.
Il pouvait enfin, maintenant, commencer l'œuvre dont il rêvait depuis l'enfance. Peut-être pourrais-je maintenant achever l'œuvre que j'ai entamée. Donc, ça a été.
Et c'est l'écriture.
C'est freudien. Je n'avais aucune idée de Freud. Je n'ai pas une idée de psychanalyste. Je dis que j'ai une affinité. Très grande avec Thanasis, mais avec sa poésie.
Mais Thanasis nous disait que récemment, dans un congrès de psychanalyse en Grèce, si j'ai bien compris, quelqu'un a fait une communication sur toi.
Les psychanalystes s'intéressent à ce travail.
Voilà, pour parler d'une sorte de processus d'auto-analyse.
Thanasis disait l'autre jour à
dans ce livre.
Il faut faire son auto-analyse. Peut-être l'ai-je fait, mais en l'ignorant, à mon compte défendant. Voilà. Mais ce que je voulais dire beaucoup, c'est que ces trois jours de ce banquet, j'ai énormément appris sur la Grèce. Par vous et par les
alors qu'est-ce que tu as appris? C'est bien que quelqu'un qui vient de Grèce puisse apprendre quelque chose de ce que les autres lui disent de son pays
et sur mon propre travail. Donc on n'est pas très loin de ce travail.
Alors quoi?
René Boucher, La première conférence de René Boucher, il a parlé de la double identité et du double exil. Là, j'ai compris comment ce double exil est très important comme titre, parce qu'il a parlé de Papadiamandis et de Visinos. Je l'ai dit d'ailleurs hier aussi, je ne sentais pas cette filiation. Je me sentais enfin beaucoup plus proche des poètes de génération, de la génération des années 30. Et là, j'ai vu que j'étais vraiment l'héritier aussi de Papadiamandis et de Visinos, parce qu'il y a cette double identité, l'Europe, et notamment la France, parce que pour moi la France c'est vraiment une patrie. Je suis marié à une Française, on a vécu toute notre vie ensemble, on va et vient.
Elle s'appelle donc, vraiment Gisèle, comme dans le livre.
Gisèle, donc, et ce qui est curieux, c'est que comme j'apprenais la France à 18 ans, là vraiment c'est le sentiment, c'est l'état d'âme d'un jeune garçon de 18 ans. C'est pas moi qui parle, c'est pour ça qu'il y a le il se justifie, c'est pas moi qui sens comme ça, c'est ce jeune garçon, et je réapprends la France aujourd'hui et à travers vous, et je vous suis reconnaissant. Qu'est-ce que j'ai appris? D'abord, René Boucher il a parlé de ce déchirement, de cette double patrie, de ce double exil. Ça, c'est le mien. Ensuite, toi, Michel Volkovitch, on parlait des morts, de la présence des morts. Thanasis Hadzopoulos aussi. Michel Volkovitch a une formule très frappante pour moi. La Grèce est le pays où les morts sont les plus vivants.
C'est une chose qu'on
a lu tout à l'heure, le poème Présence de l'absent. Tu as dit toi-même que parousia, c'est quelque chose de plus fort que présence éventuelle. Et en effet, parousia, parousie, je ne sais pas comment on peut le traduire, mais il y a le verbe imi, être. Il y a le être dans le présence. Grec, dans la parousia grecque. Par exemple, dans un panier, il y a une fête populaire grecque à Karpathos. Lorsque les gens se rassemblent, ce rassemblement s'appelle parousia. C'était saisissant pour moi, c'était bouleversant pour moi. Donc la présence, le présence du mort.
C'est une chose qui est absolument au cœur de l'écriture.
C'est au cœur du livre, c'est au cœur du travail de Thanasis Katsopoulos, c'est au cœur de la culture grecque, parce que c'est plus profond que nous, ça nous dépasse. Ce n'est pas Thanasis, ce n'est pas moi, c'est une œuvre collective, c'est pour ça que ce n'est pas du folklore, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est quelque chose d'existentiel pour nous tous. Alors ici, je l'ai réappris par le regard français de René Boucher, de Volkovitch, de toi-même. Ensuite, vous avez parlé d'une Grèce hier, invisible derrière la Grèce visible. C'est très important.
Ça c'est un peu moi qui l'ai dit.
C'est toi qui l'as dit.
Mais à cause du vers de... je vais encore oublier de qui, qu'a cité Thanasis. Pascalis.
Ensuite, la présence du temps, la simultanéité. Thanasis a parlé tout de suite, il y a tout à l'heure, de la présence de tous les temps dans l'inconscient. C'est un thème qui lui est familier et qui m'est familier aussi, et qui m'a éclairé beaucoup sur mon propre travail. Lorsque j'écris tous ces livres, je sens que le passé est totalement présent en moi. Alors, vous avez parlé, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est Michel, c'est un poème encore, La sève des siècles circule. C'est un poème de
ça, c'est, Pios, oui, c'est Michel qui a souligné valeur emblématique de ce vers
de
Patricios.
De mes 18 ans. Il dit « À la bouche me vient le goût d'un jour d'antan. Je suis en France et j'essaie de me pénétrer de toute l'histoire française. Je rêve, comme les parents de ma bien-aimée l'enfermaient toujours, je disais « Je suis un page » puis elle est dans son château enfermée. Et alors je marche près de la mer, j'écoute le grondement de la mer et je dis « À la bouche me vient le goût d'un jour d'antan. Dans mes veines, je sens couler le flot du temps. » Ça c'est René Boucher, mais je disais, je sens couler le flot des siècles.
C'est-à-dire qu'il a essayé de faire une rime.
Oui, c'est la rime.
Bien sûr.
Mais c'est les siècles. Donc voilà, je dis, à 18 ans, je sentais ça. Alors je sentais, j'avais un regard grec sur la France, de même que j'ai acquis un regard français sur la Grèce. Et ça recommence aujourd'hui. J'ai un regard français sur la Grèce maintenant.
Ah, voilà.
Plein de choses. Michel parlait de pas de frontières pour la culture populaire. Il n'y a pas de frontières, la culture. On a parlé du pont d'Arta à propos du poème de Thanasis. Pour le Karagiosis, que j'ai étudié, sur lequel j'ai écrit deux grands volumes, mais ce n'était pas le Carillon, ce n'était pas une monographie sur le Carillon, c'était à partir de cet exemple, pénétrer au plus profond de la culture populaire, de la tradition populaire. D'une part, l'oralité, qui est très importante en Grèce, d'autre part, le carnaval. C'est deux livres autonomes, indépendants. Et alors, le carnaval, c'est quelque chose d'universel encore. Mais c'est aussi profondément grec. Le carnaval, c'est le dicolon, voilà.
Ça allait moins rester pour nous, malheureusement,
bien sûr, mais
peut-être.
Pour nous aussi, enfin.
Parce que justement, est-ce que c'est un...
Michel a dit aussi que les racines paysannes sont beaucoup plus solides en Grèce que chez vous. Et tu as dit une chose très bien, peut-être j'y reviendrai, que votre culture vient d'en haut un peu. Elle est une culture aristocratique. Alors, notre culture...
Il y a les deux, mais enfin, c'est...
Bas, oui. Mais votre culture médiévale vient du bas aussi.
Oui,
votre
culture
classique, à partir du XVIe, XVIIe siècle, votre culture vient d'en haut. N'est-ce pas? C'est une culture aristocratique. Chez nous, c'est une culture populaire, donc plus démocratique par essence. Et ça a un lien avec la politique. Peut-être on reviendra vers la fin de notre entretien.
La question, c'est, ça me pose énormément de questions, tout ce que tu dis là. Une question, c'est de savoir si dans cette quête de, quand même, il y a un point commun entre les livres sur le Karagiosis et le livre sur le carnaval, c'est qu'il s'agit quand même de sauver ou de préserver quelque chose d'une Grèce ancienne. Est-ce que tu la sens menacée, ou est-ce que c'est quelque chose qui reste vivant pour tous les Grecs? Est-ce qu'il y avait un effet de nostalgie dans le désir de se comprendre soi-même, de se connaître
D'abord, bon, je reviens un peu au thème de l'autobiographie. Ce n'est pas de l'autobiographie pour moi, ce n'est pas de l'autofiction.
Non.
C'est un terme que je déteste.
Ben, je me suis permis de dire dans un article que j'ai écrit sur toi que la différence avec nos autofictifs français, c'est que les autofictifs, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, ne parlaient finalement que d'eux, qu'il n'y avait pas justement dans les autofictions en France, ce qu'on a appelé finalement comme ça, mettons, pourquoi pas, on pourrait dire peut-être autobiographie, mais enfin bon, il y avait sûrement une dimension d'invention romanée, de mise en forme, etc., mais il n'y a pas cette dimension historique. Ce côté qui fait que c'est au fond de toute l'histoire du pays que tu parles à travers ton expérience individuelle. Et ça, c'est une chose dont je ne vois pas d'équivalent dans les autobiographies récentes. Hein, je ne parle pas de Michel Leiris ou de...
Ce qui m'a intéressé dans ces livres, ou c'est peut-être pas le mot m'a intéressé, ce que j'ai découvert en les faisant, en les écrivant, c'était et c'est ce qui m'a stimulé pour continuer le travail. C'est que dès la première page, je découvrais les fondations collectives de mon jeu subjectif. Et ça m'a entraîné vraiment.
Est-ce que c'était une découverte, ou est-ce que tout ce travail effectué sur les traditions populaires y préparait?
Exactement, je retrouvais ce travail. J'avais cru que c'était une rupture très profonde, mais c'était aussi une continuité. Parce que bon, je changeais de registre quand même.
Ben oui.
C'était pas un essai. Presque savant, qui étaient les essais précédents. C'était un livre profondément intime, enfin une confession intime. Il y avait de la confession là-dedans. Et il y avait une écriture très personnelle, donc littéraire. Peu à peu, je découvrais l'écriture littéraire. Et en même temps que je découvrais l'écriture littéraire, je redécouvrais les fondations communes, communautaires, collectives, historiques, sociales, de mon moi.
Découverte, mais aussi redécouverte, parce que dans le dicolon, il y a déjà la mention de l'écriture qui est présente très tôt dans ta vie, et après dans Double Exil, même déjà un petit peu dans le premier livre, tu réutilises, même si tu n'as pas publié de poèmes, des choses que tu as écrites autrefois et dont tu ne gardes que quelques vers, mais où on voit quand même que le premier mode d'expression, c'est la poésie. Donc finalement, tu es devenu romancier ou prosateur, mais à la source de tout, il y a la poésie, et je sais, parce que je te connais, que tu sais beaucoup de poèmes par cœur, que tu connais bien la poésie, tu es vraiment un lecteur de poésie, et quand on te demande quel est de tous les écrivains grecs celui qui t'a le plus marqué, tu cites un poète qui est Séphéris,
oui,
et pas un romancier.
C'était aussi un maître à penser.
Bien entendu. Nous avons un beau choix de ses essais, et nous avons aussi son journal au Mercure de France, enfin c'est pas intégral, mais Denis Kohler a fait de beaux travaux de traduction.
Ces journaux aussi, mais ils sont épuisés, je crois.
Les journaux sont peut-être épuisés, enfin en tout cas moi je les ai, c'était aussi Denis Kohler, si je me souviens bien, qui avait traduit, mais je pense que ce sont seulement des extraits, c'est un choix de pages du journal, mais ça permet quand même vraiment de rentrer dans la pensée de Séphéris. Mais enfin quand même, Séphéris, même quand il écrit des essais, il le fait d'abord en poète. Donc ce lien à la poésie, ce lien à la poésie qui est retravaillé, qui est c'était quand même donc un retour à l'écriture littéraire, mais sous l'angle de la prose.
Je sens qu'il y a une espèce de synthèse qui s'est faite peu à peu, malgré moi. Il y a deux sources dans ces romans. Je me sens pas vraiment romancier. Je me sens Il y a une source poétique et une source essayistique.
Voilà.
Les deux convergent vers cette narration. Mais la narration a illuminé le tout. C'est pour ça que dans le premier livre, d'ailleurs, il y a une alternance constante entre la narration, le récit, qui va vraiment m'avait enchanté, mais je retrouvais tout mon passé, c'était vraiment vivant. C'était la Madeleine de Proust. Enfin, le décolon, c'était la Madeleine de Proust. C'était la mémoire inconsciente qui revenait, qui émergeait. Et d'autre part, bon, la réflexion sur ce que je faisais, cette espèce d'autoréférentialité, mais qui était quand même un langage un peu à la fois poétique et essayistique dans ce dialogue à soi-même. C'est la deuxième personne qui apparaît là. La première personne de la narration et à la deuxième personne, le dialogue à soi-même selon le modèle de Marc Aurèle. Et là, vraiment, on sent les deux veines. Mais on le sent aussi peut-être à la narration, je ne sais pas.
Ah oui, mais effectivement, ça se situe au point de convergence entre le roman, certainement la poésie aussi, et puis l'essai. C'est-à-dire que ce qui est très frappant, c'est que devenant romancier, tu restes un essayiste, puisque et au sens vraiment très montaignien du terme, parce qu'il s'agit de s'essayer.
C'est moi-même la matière de mes livres.
C'est le vrai sens du mot essai chez Montaigne, c'est qu'il s'essaye lui-même, mais à la façon dont on fait l'essai de soi-même.
C'est de l'autobiographie ou de l'autofiction.
Pas du tout.
C'était ça. Ah
non. Oui. D'autofiction, le mot n'existait pas.
Et non, mais
c'était peut-être pas dommage. Et certainement pas de l'autobiographie, naturellement. Et pourtant, il dit je, c'est lui-même qui l'essaye sur chaque sujet. Pour apprendre à se connaître. Est-ce que donc cette entreprise de connaissance de soi a des antécédents dans la littérature grecque? Par exemple, est-ce que les mémoires de Makrianis, qui ont été si importants pour Séphéris, sont encore aujourd'hui quelque chose qui peut aider ou
toute autre veine,
c'est autre chose?
C'est la littérature orale, vraiment. C'est un paradoxe qui est très typique de la Grèce moderne. C'est un écrivain qui était illettré.
Oui,
peut dire un écrivain illettré. C'est pas
mais Séphéris dit que Séphéris dit que la langue de Makrianis lui sert de référence.
Mais c'est la langue orale.
C'est la langue orale, bien sûr.
Si on voit un manuscrit de Makrianis,
ça n'empêche pas.
C'est comme un mur. Tous les mots. Enfin, il a appris à l'âge de 40 ans à lire et à écrire. Donc c'est un écrivain illettré quand même.
Ah oui, mais.
C'est la veine de la culture populaire. Chez moi, la culture populaire, j'ai une distance par rapport à elle, parce que je fais mon deuil. Je suis un écrivain de l'écriture, quoi. Donc, je ne peux pas le comparer.
C'est le mot deuil, moi, qui m'intéresse là.
Oui, pardon,
j'entends le mot deuil sur. Qu'est-ce que c'est faire son deuil de la culture populaire? Non, il n'y a pas que le deuil de.
Oui, tu as demandé tout à l'heure.
Il n'y a pas que le deuil comme thème de la famille.
C'est abîmé, je suis tout à fait d'accord. Tous mes livres décrivent cette destruction lente dans la deuxième partie du XXe siècle, de 50 à 2000, le troisième tome.
Voilà, parce que le héros quitte son pays quand il y revient, il découvre aussi. Voilà, parce qu'à la fois il a deux patries, mais il est aussi doublement exilé dans l'une et dans l'autre, y compris dans son propre pays, exactement. Parce que la Grèce à laquelle il tient est une Grèce qui est en train de disparaître.
L'armée, un peu avant la dictature, où je sens tout à fait les signes de la dictature qui va venir, parce que l'armée c'est un état dans l'état, un état totalement autoritaire, quasi totalitaire. Et je sens la dictature et je suis effrayé. Et puis je vois le sous-développement économique, social et culturel. Petros Markaris a parlé aussi d'un déficit d'éducation. C'est très important, ça.
Oui.
Parce que justement, parce qu'on a une culture orale très riche, on n'a pas une culture orale écrite très riche. Alors qu'on a une littérature formidable, écrite, mais elle n'a pas été vraiment, comment dire, elle n'est pas entrée dans le corps collectif, vraiment. C'est-à-dire, ici, vous Victor Hugo, ça fait partie de votre culture quasiment populaire, je dirais, nationale oui. en tout cas. Mm-hmm. Pour nous, ce n'est pas comme ça. Mm-hmm. Et Papadiamandis, les gens sont encore rébutés par sa langue, les plus jeunes, les générations. Mm-hmm. Il n'y a pas une diffusion, comment dire, ça ne s'est pas infiltré dans le corps collectif. Vraiment. Et ça, c'est un déficit. C'est pour ça que nous sommes solitaires en Grèce. Séphéris le disait aussi déjà. Mm-hmm. Tu imagines que
vous, c'est-à-dire vous écrivain, vous intellectuel ou vous qu'est-ce que tu veux dire par nous sommes solitaires en Grèce?
Écrivain.
Vous,
poète. Mm-hmm. Séphéris en 47,
et pourtant quel pays?
Sept exemplaires de la grive, imagine.
Ah ben oui, sur le moment, mais ça, on peut toujours dire que oui. Rimbaud a vendu 3 exemplaires d'Une saison en enfer.
Oui, bon, Rimbaud, même pas ça.
Non, mais je veux dire que sur le moment, c'est jamais sur le moment qu'on peut juger de l'importance d'un texte. Et en revanche, nous citions ce cas qui fait que des poèmes de Séphéris ou de Cavadias ou de
Cavadias de son vivant.
Peuvent être chantés. Oui.
Je connaissais Cavadias personnellement.
Et oui, mais quand les chanteurs, on l'a entendu un peu hier, on a entendu du Palamas mis en musique, quand les chanteurs s'emparent de ces poèmes deviennent extrêmement populaires. C'est une chose, qui est inimaginable.
Parce que c'est la réalité qui renaît.
Oui, mais c'est une chose inimaginable pour nous, en France.
Vous l'avez dit hier, c'est très juste.
Ça n'existe pas.
Ça ne veut pas dire que la culture écrite progresse.
D'accord.
La culture savante, disons. La poésie, c'est dans le ADN grec, si tu veux. D'accord. Il y a des gens populaires qui écrivent des distiques, ou qui le disent. Mm-hmm. Encore en Crète, il y a des gens qui parlent avec des mandinaves. Mandinaves, c'est des vers de 15 syllabes rimés. Mm-hmm. Alors, ils vous saluent avec ça. Mm-hmm. Ça existe. Et c'est ça qui nourrit la poésie. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on a une poésie très, très forte en Grèce et une prose beaucoup plus pauvre quand même. Et je ne parle pas de la pensée philosophique qui est encore plus pauvre. Ce n'est pas un hasard si nos philosophes les plus importants sont des émigrés. Ils ont émigré. Castoriadis, Axelos, Papaioannou,
etc. Et ils ont souvent écrit en français.
Évidemment, on a des jeunes philosophes actuellement. Il y a une génération, mais c'est encore... Je veux dire qu'il y a un progrès maintenant par rapport à la génération des années 30.
Ah, voilà, on entend une chose.
Je pense que, parce que l'autre jour, René Boucher a parlé de la difficulté de concilier les deux identités, l'européenne et la grecque. Pour la difficulté, le mariage est devenu impossible. Je crois qu'actuellement, le mariage peut devenir possible à l'avenir. C'est peut-être une utopie, mais c'est une utopie à laquelle je tiens.
Parce que dans le dix colonnes, quand même, le frère meurt d'une illusion qui est de croire qu'en Europe... Et alors, c'est très étonnant pour nous, Français, de découvrir dans ce livre qu'on parle de l'Europe presque comme si c'était un autre continent, alors que pour nous, la Grèce, c'est peut-être le cœur de l'Europe, à nos yeux.
Oui, c'est le cœur de l'Europe, je pense.
Mais comment se fait-il ?
Le paradoxe, c'est qu'il y a les deux.
Il y a les deux. C'est aussi un extérieur.
On en a parlé d'ailleurs.
Oui.
Le paradoxe, c'est que on disait on va en Europe, on enviait l'Europe, on avait envie de, nous autres Grecs, de devenir un État européen. En même temps, comme a dit.
Est-ce que c'est du fait d'avoir été coupé du reste de l'Europe par une occupation très longue, par
évidemment, 450 ans, ça compte.
Quoique,
ce n'est pas partout. Les îles Ioniennes n'ont jamais été occupées par les Ottomans. La Crète n'a été prise par les Ottomans qu'en 1669. Donc, il y a eu 2 siècles seulement, pas 4 siècles, comme le reste de la Grèce. Et c'est pour ça que les traces vénitiennes sont plus visibles en Crète que les traces ottomanes. Mais, qu'est-ce que je voulais dire ?
Nous parlions de l'Europe et du fait qu'elle apparaît à la fois comme un idéal enviable, mais qu'en même temps, c'est le fait de la prendre.
Parce que Christos Christopoulos disait que la Grèce, c'est un rêve européen, un peu. C'est le rêve de romantique européen. C'est une création européenne, de toute manière.
Ça ne veut
pas dire que c'est purement une création européenne. Il y a une volonté d'une société de s'émanciper du joug ottoman et de devenir européenne.
Et il a fallu l'aide, effectivement, des grandes puissances de l'Europe pour...
Avant l'aide des grandes puissances, il a fallu quand même une certaine volonté collective. Elle n'est pas venue du fond du peuple. C'est ça le problème.
Est-ce qu'il aurait fallu...
Elle est venue de la diaspora.
Est-ce qu'il aurait fallu un roi grec ?
C'est une question... Je vais te répondre, mais...
Parce qu'on a imposé une famille allemande à la tête de la Grèce.
Danoise.
Et danoise, oui. Enfin, c'était les Beatles, par
contre. Le problème, c'est, je dis, elle n'est pas venue du fond du peuple, cette volonté. Elle est venue de la diaspora, les marchands, les commerçants, les érudits, les idéologues, les penseurs, etc. Il y a eu des lumières grecques très pauvres, mais enfin, très influencées. Par... Ces lumières n'ont pas pénétré. C'est Petr Osmark qui l'a dit aussi. Mm-hmm. C'est très vrai. Michel Volkovitch a dit que on n'a pas connu la Renaissance. J'ajouterais, on n'a pas connu la réforme est très importante pour l'Europe.
Certainement.
Général, même pour les catholiques, c'est très important.
Ah, pas oui, même pour les catholiques.
On n'a pas connu la révolution française, les Lumières, la révolution française, ni la révolution industrielle. Tout ça, c'est très important. Donc, on est plus proche de nos sources paysannes, etc. Donc, la volonté de devenir un État européen n'est pas venue du fond du peuple, elle est venue de la diaspora. Mais cette volonté s'est infiltrée peu à peu dans tout le corps social. Si bien, parce que nous sommes tous des descendants de paysans. Moi, mon grand-père était instituteur. Eh bien, il y avait des livres français chez lui. Il voulait être européen à tous. C'était une volonté qui s'est propagée dans tout le corps social. Mon arrière-grand-père était un combattant contre les Turcs. Donc, les Grecs voulaient partir, voulaient sortir du joug ottoman, voulaient devenir européens. Donc, la contradiction. Il y a un sociologue, politologue grec qui dit qu'il y a eu un mariage stérile entre la société archaïque grecque et, ça revient un peu à ce que a dit René Boucher d'une manière plus sociologique, et l'État grec. Les institutions ont été importées. Voilà la question du roi. Le roi est venu après 4 ans d'anarchie en Grèce, parce qu'il y a eu d'abord un gouverneur grec qui était de Corfou, Capodistria,
Capodistria,
qui était ministre des Affaires étrangères du Tsar. Alors, on l'a nommé gouverneur. C'était un Grec. Eh bien, on l'a assassiné. Les combattants de la Révolution l'ont assassiné. Alors, il y avait l'anarchie complète. Donc, les puissances ont imposé un roi bavarois. Et alors, le roi bavarois, il avait 18 ans. Il y avait une régence. Il y avait 3 bavarois qui ont fait les lois grecques. Tout a été importé. Donc, il a fallu créer un État de toutes pièces qui était complètement étranger aux mœurs grecques, etc. Donc, on n'a pas connu les Lumières. On n'a pas connu Petros Markaris disait aussi que on n'a pas compris la Révolution française. C'est vrai, mais il faut voir que il y a quand même quelque chose de très démocratique. Alors ça, je viens à la culture et au tutoiement. Les combattants tutoie le roi. Moi, je te tutoie alors que tu me vous vois. Évidemment, si on était à la radio.
Non, non, j'ai dit vous parce que j'ai l'habitude à la radio de toujours. À la radio, on dit toujours vous. Mais on dit tu.
La Grèce n'est pas un pays très idéologique comme en France. Il est un pays plus pragmatique, plus terre à terre comme ça. Ce qui veut dire que, on a un sentiment très développé de l'égalité. L'égalité des humains. Ça vient de l'évangile, si tu veux. C'est le commun des mortels dont a parlé. Alors, on est tous. Macrianis parle de. Enfin, le roi, Napoléon le Grand et le dernier des hommes seront ensevelis dans la même tombe. Alors, il y a cette égalité, et ça vient de la messe des morts grecque, où on dit roi ou soldat, ils sont égaux. Alors, ce sentiment d'égalité a imprégné la société grecque. Et il y avait dans les communautés, les communautés de l'époque turque, une vie très démocratique. Évidemment, il n'y avait pas de classe. Très fermé. Il n'y avait pas d'aristocratie. Il y avait évidemment des notables qui étaient nommés souvent par les Turcs et qui étaient les collaborateurs des Turcs. Et puis il y avait le peuple, le petit peuple. Mais enfin, tous se tutoyaient. Ça veut dire qu'il y avait une égalité, il y avait un sentiment démocratique. C'est pour ça que le suffrage universel a été introduit en Grèce avant les pays européens. Alors, il n'y a pas eu de suffrage censitaire, enfin. Dès qu'on a eu la Constitution, on a fait. En 1860, je crois qu'on avait le suffrage universel. Donc, il y avait une tradition démocratique. Et alors, c'est pour ça que lorsque j'écoute pour l'Aube Dorée actuellement, l'Aube Dorée, on dit que c'est un parti néo-nazi. Ça l'est. C'est vrai. Ils ont Hitler. Mais c'était. Avant tout, c'est un primitivisme incroyable. C'est vraiment la violence humaine qui sort du moment de la crise. Une violence, un instinct d'autodestruction. Et c'est ça. C'est surtout, c'est une bande criminelle plus qu'un parti idéologique qui est une idéologie. Parce que je pense, Michel Volkovitch disait aussi avant-hier, hier ou avant-hier, qu'il n'y a pas eu des intellectuels de droite vraiment en Grèce. C'est pas tout à fait vrai. Il y en a eu quelques-uns, mais d'extrême droite. Mais lorsque je pense à l'entre-deux-guerres français...
De droite ou d'extrême droite ? C'est pas la même chose.
De droite et d'extrême droite.
Et
aussi,
d'extrême droite, oui. D'accord.
Mais en France, il y a eu des intellectuels d'extrême droite de l'entre-deux-guerres et de
l'entre-deux-guerres. Ah oui, bien sûr.
Vous savez quelque chose. Mm-hmm. Vous en savez quelque chose. Nous, on n'a pas eu ça. On a eu Spiros Melas, ils étaient un peu... Bon, ils étaient un peu séduits par l'idéologie autoritaire... Mais ça n'a pas pris des racines. La dictature des colonels n'a pas eu des racines vraiment dans le peuple. Il y a eu des sympathisants parce que, bon, il a fait des choses démagogiques, le dictateur. Il a, annulé toutes les dettes des paysans. Donc, il y avait une sympathie des paysans, mais il n'y a vraiment pas eu d'appui populaire. Metaxas n'a pas eu d'appui populaire, vraiment. C'est au moment où il a résisté aux Italiens que tout le monde s'est soulevé. Ce
ça a été son mérite, Italiens, c'est certain.
C'était vraiment collectif. Mmh.
C'est là qu'il a, bien sûr.
Metaxas,
c'est...
puisque ton roman est là.
Bien sûr.
Et on a lu un passage hier.
Mais il a montré, enfin, il a évidemment eu tout le monde derrière lui, puisqu'il a mené cette résistance contre le fascisme italien, évidemment. Cette mémoire historique, elle imprègne aussi l'histoire plus récente. Dans Double Exil, le héros, il y a beaucoup de réflexions politiques finalement sur, puisque l'expérience est aussi l'expérience de ces années du milieu du XXe siècle où en France aussi on essaye veut repenser la société.
Exactement. La connaissance de soi, c'est la connaissance de l'autre, des autres, et c'est la connaissance de la communauté à laquelle on appartient. De la double patrie.
Comme voilà.
Alors, la France m'a éclairé sur la Grèce et la Grèce m'éclaire sur la France. Et ça continue, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Peut-être qu'il y aurait des questions, sinon moi j'en ai encore, mais on peut demander à nos amis. Alors, sauf si vous avez compris qu'Yanis a des tas de choses à dire, alors je ne veux pas...
Je parlais de la culture démocratique et aristocratique, oui.
Mais si... Mais s'il y a...
la situation conflictuelle de l'État et de la société, la discontinuité, la rupture.
Oui.
J'ai dit la nécessité de la synthèse européanité grécité. C'était le grand rêve de la génération de 1930. Ils y sont parvenus en partie. Pourquoi ? Parce que justement, ça n'a pas imprégné le corps collectif. Et c'est la même chose pour l'idéologie de la modernisation. On a eu un gouvernement de centre-gauche qui nous a fait beaucoup espérer dans les années 96 jusqu'à 2004, le gouvernement Simitis. Il y avait cette idéologie de la modernisation, mais alors on a buté sur la crise grecque et sur la crise européenne à la fois, sur la tendance autodestructrice du progrès, parce qu'avec Simitis se développait aussi tout ce consumérisme, cette société. Alors on est passé vraiment d'une société archaïque, on est passé à la postmodernité sans avoir vraiment assimilé la modernité. Et ça, c'est important aussi.
Mais dans le film que nous avons vu tout à l'heure, je crois que c'est Petros Markaris qui parlait de la pauvreté, du fait que la Grèce était un pays pauvre, mais en même temps un pays de grande culture. Et on a un peu l'impression, au contraire, que le déluge d'argent un peu vain qui s'est abattu sur la Grèce avait pour corollaire une certaine forme de barbarie. Et de défiguration.
Et de corruption, parce que la Grèce a emprunté à des taux pareil au moment de la création de l'euro, de l'adoption de l'euro, et emprunté à des taux allemands, si tu veux, des taux d'intérêt allemands. Alors, ça, c'était
absolument
pas possible. Alors, mais là, il y a une responsabilité européenne énorme. L'euro a été construit sur du sable. C'était une construction qui n'était pas solide du tout, parce que c'est une monnaie qui a creusé les divergences au lieu de faire la convergence. Alors, la convergence,
parce que
économies du Nord et du Sud, c'était un but affiché, proclamé, solennellement proclamé, dès le début du marché commun, dès 1957. Parce que j'en sais quelque chose, je faisais du droit européen. On avait une ferveur européenne dans les années 60. Il y avait un optimisme partout. Et alors, je pense que c'est, comme il a été dit plusieurs fois ici, notre État est un peu prémonitoire de ce qui se passe, de ce qui se passera peut-être aussi. Et je trouve très bien le titre qu'a choisi Dominique Bondu, La Grèce au cœur de l'Europe. Je lui ai dit dès le moment de janvier, lorsqu'il avait choisi ça, déjà.
Et le fait de réfléchir sur la langue aujourd'hui, de travailler, ce qui était notre sujet,
alors, la langue,
notre jour.
C'est essentiel pour l'écrivain que je suis.
C'est une réponse à la crise, en fait.
La seule dette que je me sens capable d'accomplir, enfin, dans la mesure de mes forces, une dette à la fois d'écrivain et une dette humaine vis-à-vis de mes compatriotes, de leur faire sentir les trésors qu'ils ont en eux et qu'ils négligent. Et je crois que vraiment, là, mon utopie est en bonne voie parce que je suis en compagnie d'autres, des poètes. Mmh. Je sens une grande affinité avec les poètes, tout en n'étant pas poète, enfin, au sens étroit du mot, parce que je sens que ce sont les gardiens des mots, et lorsque je dis gardien, ce n'est pas un trésor à conserver, c'est quelque chose qui est totalement vivant, c'est des mots qui ressuscitent et qui portent l'universel moderne, qui portent l'avenir. Si on sort de l'économisme, je parle souvent de le mot économie, et il y a une finalité humaine qui est impliquée dans l'étymologie, d'une manière transparente, dans l'étymologie même du mot icos, ekos, maison, et nomos, qui est partage et qui est loi. Après, partage, règle de conduite, puis loi, parce que le mot évolue, n'est-ce pas? Alors, cette finalité humaine est impliquée dans cette étymologie. Alors, que voit-on? On voit tout le contraire. Tout le contraire. On voit
l'anarchie. Ce qu'on appelle l'économie aujourd'hui.
J'aime pas vraiment trop politiser le débat parce que je trouve que la crise que nous vivons est plus anthropologique qu'étroitement politique.
Oui.
C'est une crise, une mutation et un changement de paradigme. Et alors, je sens que vraiment, comme dans le tragique, parce que Hercy a dit souvent, enfin, la Grèce, c'est le monstre. Mais c'est aussi la vitalité, l'énergie. Alors je crois à cette vitalité, à cette énergie. Petros a dit la même chose un peu, d'une autre manière. C'est une vie très contradictoire, mais on aime y vivre, il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Et alors je pense qu'il se passe quelque chose dans la langue, si nous pouvons réveiller nos lecteurs.
Réveiller ce qui dort.
Oui,
parce qu'il
y a
langue.
Quelque chose en eux.
Une force.
C'est pas
une énergie.
C'est pas nous, on n'est pas les maîtres à penser, non, c'est pas ça. C'est fini ce temps-là. Et le temps de l'engagement politique au sens étroit, c'est complètement fini aussi. Mais je pense qu'il est beaucoup plus politique de faire notre littérature, de faire notre œuvre. Et je sens que vraiment, j'ai beaucoup d'écho maintenant en Grèce. C'est individuel, mais peu à peu, je sens que vraiment, il y a des gens qui viennent autour de moi et on discute. Il y a des petits groupes qui se forment, de clubs de lecture.
À l'occasion de conférences ou de dédicaces ou de lectures.
Chez les uns, chez les autres, chez des amis, des réunions d'amis.
Oui, tout simplement.
Oui.
Quelque chose donc est en train de se reconstituer dans la vie intellectuelle et spirituelle en Grèce.
Et dans le même, enfin, dans les... Moi, je croyais que les cultures populaires étaient mortes. Tu m'as demandé tout à l'heure si les cultures...
Eh bien, parce que tu as parlé de deuil à son sujet.
Il y a un deuil très fort. Mais je vois des gens de 40 ans, donc une génération, ça pourrait être mes enfants, de plus jeunes que toi, et qui un berger de Styros, j'en parle dans un texte que j'ai donné à Camille de Toledo, qui va être lu en Berlin. Alors, il a parlé de l'agora. Lorsque quelqu'un parle de l'agora aujourd'hui, c'est pas le mot ancien seulement qui refleurit dans toute sa virginité, dans toute sa fraîcheur virginale, mais c'est aussi un mot qui porte l'avenir. Alors c'est la langue, comment dit Petros Markaris a dit, on ne peut pas répondre à un discours économique,
on ne peut pas
répondre à un discours politique par un discours économique, c'est ça. Il faut répondre alors au discours de l'économisme dominant et ambiant par un discours politique et culturel, parce que c'est lié, tu vois, politique, ça vient de polis. Le mot politismos, qui veut dire civilisation aujourd'hui en grec, c'est un mot tardif, ce n'est pas du grec classique, mais c'est Diogène Laërce. Et ça voulait dire le gouvernement de la cité. Donc c'est tout à fait politique et politismos, civilisation, ce sont des mots. Donc tout ça, c'est une constellation de mots, une pléiade de mots, démocratie, agora, économie, tout cela se tient. Ça fait tout un système d'humanité et qui manque cruellement à notre Europe. Et je ne parle pas de la Grèce. Alors, où on sombre, où on ressuscite. Il y a le symbole très fort de la résurrection, qui n'est pas un symbole seulement religieux, tu connais. Tu as assisté à des Pâques grecques, à des messes de résurrection. Tu vois que c'est à la fois profondément chrétien et profondément païen. Alors là, le syncrétisme, la synthèse se fait au niveau profond, pas au niveau des intellectuels.
Est-ce qu'il y a quelques questions ? Parce que peut-être que ce qui est dit là appelle des curiosités. Non ?
Un peu plus fort, s'il vous
plaît. L'influence de l'Église.
Parce que je vous entends. Oui. Écoutez, l'Église est très, très importante, elle est très, très présente. Mais lorsque je parle, moi, du culte populaire, je ne suis pas pratiquant du tout, donc je n'ai pas de relation avec l'Église officielle. Même souvent, elle me rebute par ses actes, quoique l'archevêque actuel, c'est un homme assez éclairé, disons. Mais enfin, moi, je n'ai pas de relation avec l'Église grecque. Par contre, et je ne suis pas pratiquant, comme je l'ai dit. Mais par contre, je respecte infiniment le culte populaire, la tradition. Alors là, c'est un très grand respect, tout en étant, je ne dirais pas un croyant, parce que, voilà, le terme, je le rappelais hier, pistis, qui veut dire foi, veut dire d'abord confiance. Alors, c'est un acte de confiance envers tout ce qui m'entoure dans ce pays, qui me fait vivre, qui me permet d'écrire et de continuer. Donc, je n'ai pas répondu à votre question, mais enfin, l'Église...
Si, ça répond, je trouve, moi, au moins du point de vue de ta propre sensibilité à la culture grecque et à sa composante religieuse, qui est quand même très, très forte. Parce que l'Église grecque est vraiment une Église grecque. C'est avant d'être l'orthodoxie...
Oui. Mais si on veut entrer dans la question de la politique religieuse, c'était très mauvais qu'on ait fait des églises autocéphales. Parce que autocéphale, ça veut dire des églises autonomes, chaque pays, parce que ça nourrit le nationalisme, aussi bien en Grèce, en Bulgarie, etc. Bon, il y avait le patriarcat de Constantinople qui réunissait tout ça. Il s'appelait écuménique, il s'appelle toujours écuménique, universel, donc. Il y avait cette universalité de l'orthodoxie qui disparaît. Et même, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des théologiens éminents grecs qui disent que l'Église grecque a fait beaucoup de mal à l'orthodoxie.
Ah oui ?
Oui, l'Église autocéphale, l'Église officielle, l'Église instituée. Ils plaident pour la séparation de l'Église et de l'État, même des théologiens.
Même des théologiens ? Oui, puisqu'en Grèce, il n'y a pas cette séparation. Oui. Hein, l'Église
de
a une
valeur. De toute manière, la religiosité ne disparaît. Enfin, la foi, la pratique ne disparaîtra pas pour autant, parce que à Pâques, tout le monde se rassemble. Enfin, c'est très païen, mais peu importe. Tu vois, c'est quelque chose de très important, ça. Le jour de la résurrection, bon, lorsque le pope chante Christos Anesti, le Christ est ressuscité, alors tous s'embrassent, nous nous embrassons tous entre nous inconnus. Alors on dit Christ est ressuscité, l'autre dit vraiment ressuscité. Donc on invoque un tiers. On n'est pas entre nous deux. On dépasse l'individu, l'ego. Et c'est ça, c'est très important, je trouve. Ça n'a rien à voir avec l'Église instituée. C'est quelque chose de beaucoup plus profond qui vient du fond de notre psychisme communautaire, disons. Voilà.
On restera sur ce mot de communauté et cette idée de résurrection, parce que c'est peut-être ce qui est nécessaire pour la Grèce maintenant, qui n'est pas morte, bien sûr, mais qui a besoin de revivre. Et j'espère que ce dialogue en était aussi un peu le pressentiment.
Je voudrais remercier le pressentiment, banquier, vraiment, parce que ces journées étaient très fructueuses. J'ai compris, pas seulement la Grèce, mais mon travail à moi aussi. Oui, tout à fait, oui.
Et c'est pour ça que ça fait beaucoup de bien. Merci.